On se tutoie sur Nostalgie. Jean-Luc Reichmann.
Ça commence dans les années 60, 1964. Bienvenue à l'ORTF. Le petit Michel Drucker fait ses débuts en tant que commentateur sportif dans Sport Dimanche. Puis, alors là, il y a quand même une émission que je ne connaissais pas, Tilt Magazine. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce Tilt Magazine, Michel ?
Première émission de divertissement que je présente en direct depuis Douai.
Oui.
Dans le Nord, avec 2000 ch'tis dans la salle. C'était d'ailleurs en plein air. C'était Michel Arnaud, ma première productrice, qui m'avait engagé. Elle trouvait que je pouvais peut-être me débrouiller, puisqu'elle cherchait un jeune pour présenter une émission de jeunes, et c'est tombé sur moi.
Eh ben écoute, ça t'appelait Tilt Magazine. Et puis alors après, donc il y a la télé, et puis dans les années 70, tu arrives dans l'aventure. C'est l'aventure.
Oui.
Extraordinaire. Tu fais quand même une apparition en tant que comédien,
avec Lelouch, qui était un copain de mes débuts. Et c'est l'aventure chantée par Johnny. Johnny avait un rôle là-dedans, et moi, j'annonçais son kidnapping, je me souviens.
Oui. Et donc tu jouais ton propre rôle.
Mon propre rôle. Mais c'était surtout pour moi le bonheur de tourner avec Jacques Brel, avec Charles Denner, avec Aldo Macione, avec Lino Ventura et avec Claude Lelouch, que j'avais connu à mes débuts.
D'accord. Sur le tournage, ça s'est bien passé? C'était épique? C'était comment?
Ben, j'ai surtout sympathisé avec Brel.
Oui.
Et puis avec Lino.
Qu'est-ce qui t'a retenu chez des gens comme Brel et comme... qu'est-ce que tu as retenu, toi, de Brel et de Lino Ventura?
Il aimait l'aventure, puisque lorsqu'il a su qu'il était malade, il a dit au médecin, j'en ai pour combien de temps? Bon, vous avez un cancer du poumon, vous en avez pour 2 ans. Et il a tout arrêté, il a pris un bateau avec sa compagne de l'époque, il est parti faire le tour du monde.
Avec Mehdi,
et ensuite il a passé ses diplômes de pilote à Genève.
Oui.
Mais de pilote professionnel. Hein.
Mais de sa personnalité, t'as retenu quoi? Effectivement, c'était courageux, il a décidé de... Enfin, quand on a une nouvelle comme ça, on break, c'est normal. Mais de sa personnalité, de sa persévérance...
Là, j'ai vu le comédien.
Oui.
Très bon comédien. Bon, il avait fait l'homme de la Mancha aussi, mais une force sur scène, une passion dévastatrice. Mais sur scène, j'ai jamais vu ça. J'étais là pour sa dernière, il y avait Michel Delpech en première partie, à l'Olympia. Tout le métier était là, applaudissements très longs, il remonte dans sa loge. Et Bruno Coquatry vient le rechercher un quart d'heure après en disant « Jacques, redescendez parce que le public est encore là ».
C'est extraordinaire.
Donc il redescend avec un peignoir, et il va rester 25 minutes. Une standing convention de 25 minutes. 25 minutes, la durée d'un journal télévisé, quoi.
Et toi, tu étais dans le public?
J'étais en coulisses.
D'accord.
Avec Delpech.
Extraordinaire.
Et après, j'ai piloté avec lui. On avait l'avion, quand même.
Ouais, donc ça veut dire quoi? Il avait une persévérance, il avait une lucidité sur la vie. À un moment donné, quand il s'arrête de chanter, je pense qu'il est quand même assez jeune, il a dit ça y est, j'ai tout raconté dans mes chansons, j'arrête de chanter en fait.
Oui, quand il a su qu'il était malade, c'était à Bobigny, je me souviens, il a dit bon, je vais vivre à fond pendant 2 ans, mais j'arrête tout. Il est parti très jeune, Jacques.
C'était quoi, 49 ans, c'est ça?
Ouais, il n'avait pas 50 ans. Cancer du poumon, mais j'ai rarement vu un rapport avec le public comme ça, quoi. Il a l'impression qu'il allait mourir sur scène.
Oui, à chaque fois, il donnait tout, quoi.
Tout, et surtout, je l'ai vu, j'en étais le témoin dans sa loge. Il avait un tel trac qu'il, pratiquement, il vomissait à chaque fois une demi-heure dans sa loge avant d'entrer sur scène.
La parallèle avec Édith Piaf, cette trouille au ventre, toi, qui as connu tout le monde.
C'est-à-dire que Édith ne buvait pas que de l'eau.
Ah oui, c'est ça.
Et elle arrivait sur scène dans un état souvent difficile, et on se disait, elle va pas chanter.
Oui.
Et cette petite bonne femme arrivait, et là, la voix, d'où venait cette voix? Mais Jacques, il m'a beaucoup marqué, et il a marqué toute une génération. Et c'est vrai que je pense souvent à lui. Il a eu un rapport compliqué avec les femmes, il a eu des chagrins d'amour, ne me quitte pas. À l'époque, c'était totalement autobiographique. C'était ça, qu'une femme de sa vie, il l'avait quitté.
C'était Guy France, non?
Non, c'était...
Non mais c'est pas très très grave, t'inquiète pas.
Mais je vais retrouver.
Il n'y a pas de souci, je sais que tu as très 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 bonne mémoire. Et donc c'est totalement autobiographique sur Ne me quitte pas, quoi.
Ouais, ne me quitte pas. Et... Ouais.
Il supportait pas de souffrir, c'est ça? Il supportait pas...
C'est un grand 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 chagrin d'amour. Et c'est vrai que quand on réécoute la chanson, que des jeunes chantent maintenant dans The Voice. Hein.
Oui, bien sûr.
C'est une chanson inoubliable. C'est comme Avec le temps de Ferré.
Absolument, on va reparler de Avec le temps, évidemment, parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur, le temps. On continue juste, tu présentes Star sur TF1, donc Star, c'est ça, c'est Star d'ailleurs, c'est Star. Ça c'est Star. Et puis après, de TF1, tu passes sur Antenne 2 avec voilà, un générique que personne ne peut oublier, et ça, ça dure pendant des années. Champs-Élysées.
Ça là. Même, je l'ai écouté 100 fois ce générique. Et à chaque fois que j'écoute, ça me fait quelque chose.
Ouais.
Ça m'appelle d'abord l'enregistrement.
Mm-hmm.
Et c'était deux auteurs-compositeurs que tu connais, Jean-Claude Petit et Jean-Pierre Bourterre, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui écrivaient beaucoup pour Claude François. Mm-hmm. Et Jean-Claude Petit est un grand arrangeur.
Mm-hmm.
Ils sont venus à la maison, je dis voilà, on confie l'émission de variété, je vais l'appeler Champs-Élysées. Mm-hmm. Très bien. Ils sont mis au piano, ils ont comme tin. Et je ne savais pas que 45 ans après, on jouerait encore ce générique dans les boîtes de nuit, le soir, dans des mariages, des fêtes de famille.
Oui. Qu'est-ce que tu retiens de ces années Champs-Élysées, outre ce parterre fleuri, tout le monde se battait pour venir chez toi, dans ton émission. Qu'est-ce que tu retiens de toutes ces paillettes, de tout ça?
Mais on n'avait pas tellement de moyens, et à l'image, ça donne l'impression d'une émission fastueuse.
Mmh.
Je retiens surtout que j'étais dans un lieu magique, le studio Cabriel, juste derrière l'Élysée. Je retiens que je me suis dit, il faut que ce soit le Festival de Cannes tous les samedis. Donc on s'est dit, on va mettre un tapis rouge et puis des limousines.
Oui.
Et on va changer les voitures tous les samedis. Il y a des voitures de collection, il y avait dans un... Et ben, je retiens surtout des moments très importants. La première fois qu'on diffuse le clip de Michael Jackson.
Oui, oui, parce que c'est toi qui le diffuse en France.
Oui, absolument.
Oui.
Donc ça, c'était un moment important. Je retiens la visite de Dallas. Ackman et toute l'équipe de Dallas était là.
Oui, ton univers impitoyable.
Voilà, je retiens évidemment Whitney Houston et Serge Gainsbourg. On en parle encore tous les jours.
On va en reparler, ça, dans un instant.
Et puis, ça a été un moment magique. Ça a duré presque 10 ans. On m'en parle encore aujourd'hui.
Mm-hmm.
Et je retiens surtout un mauvais souvenir, c'est que le patron de l'époque a décidé de l'arrêter parce qu'il me trouvait démodé et has-been.
D'accord.
Et quelqu'un qui arrête une émission comme Champs-Élysées, il avait du nez, le gars.
Ouais.
Alors on avait encore sous le pied, on pouvait encore faire ça pendant 10 ans.
Il s'appelait comment ?
Il s'appelle Monsieur Guillaume, le président Guillaume.
D'accord, président Guillaume. Alors après,
paix à son âme. T'es.
Ah oui, bah bien sûr. Bah oui.
Il est plus là.
C'est ce que je disais, bien évidemment, en introduction tout à l'heure. Il y en a qui sont passés.
Bah, t'as connu ça dans ta carrière aussi.
Et ça va, ouais, ça va. On en a pas mal, et nous, on est toujours là, et ça fait super plaisir d'être sur Nostalgie ce soir avec Michel Drucker, qui fait un petit aller-retour sur TF1, oui. Star 90, merveilleux, fantastique. Et alors
c'est...
là.
Et c'est là où tu faisais la bande-annonce.
Oui. C'est Star 90 ce soir. Alors à l'époque c'était 20h50 sur TF1,
ouais.
Maintenant c'est 22h10 après les pubs. Tu vois ce que je veux te dire,
ouais.
Mais c'était 20h50 et j'avais l'honneur et la joie, rue des Morillons, de faire toutes tes voix off sur bande-annonce.
À quoi que t'aies des objets trouvés.
Oui, c'est exactement ça, le clou chez ma tante.
Le clou chez ma tante,
ouais. C'est exactement ça, cet aller-retour sur TF1,
c'était un bon souvenir.
Ouais.
J'ai beaucoup appris avec Étienne Moujotte, que j'avais connu. On a fait mes 68 ensemble,
mm-hmm.
Avec la famille Bouygues, le lait, j'avais des raisons d'aimer le lait parce que ses parents avaient connu ma mère pendant la guerre. Et puis.
Avais délaissé le service public quand même.
Mais j'ai été viré.
Ouais.
Et le lait voulait absolument que je vienne depuis longtemps, et c'est M. Bouygues lui-même qui m'a engagé,
mm-hmm.
En tête à tête, avenue Gabriel, dans son hôtel particulier, et j'ai signé le contrat après avoir mangé une langouste.
Ça, c'est bien, c'est important, toujours signer le contrat après la langouste.
Oui, et puis en tête à tête, il dit voilà, il voulait absolument que je vienne. Et il m'a dit, vous inquiétez pas, vous ferez ce que vous voudrez, je restez sur votre ligne. La seule chose que je vous demande d'accepter, c'est qu'il y aura de la pub,
mmh.
Et des sponsors,
mmh.
C'était le privé.
Mmh.
Et j'ai passé 5 ans absolument magnifiques au pavillon Baltard, c'est nous qui avons ouvert Baltard. Et puis j'ai gardé des très bons rapports avec la famille Bouygues, puisque je déjeune 3 fois par an avec Martin.
90-94, effectivement, 5 ans. Et puis après, je ne sais pas ce qui se passe, tu reviens sur le service public,
oui.
Avec le fameux studio Gabriel.
Oui. Première quotidienne.
Ouais. Qu'est-ce qui te fait switcher France Télévisions, TF1, j'ai bien compris, c'est, t'es fait virer. Mais TF1, tu repars sur France 2.
Alors là, je vais te raconter quelque chose que j'ai rarement raconté.
Oui.
C'est que Patrick Lelay, qui était le patron, et Étienne Moujotte, je déjeune un jour avec eux, il me dit, écoute Michel, j'étais là depuis 4-5 ans, et c'est très rare qu'on dise ça à un animateur. Écoute, ça marche, tu fais des gros sondages, malheureusement, ces sondages ne concernent pas notre cible publicitaire. On parlait déjà de la ménagère de moins de 50 ans qui est devenue la responsable des achats.
FRDA, femme responsable des achats.
Et le lait, très gentiment, lui dit, tu veux un conseil?
Ouais.
Si jamais tu as une proposition ailleurs, tu t'en vas. On t'en parle pas, mais tu t'en vas. Tu t'en vas parce que on pourra pas continuer Star 90 parce que ça rapporte pas assez.
C'est une histoire de fou. Et donc,
et il m'a dit, je t'autorise à partir.
Je te mets à la porte élégamment, en fait, en sous-titrage et en décodeur. Et toi, tu retournes à France Télévisions. Il t'ouvre la porte. Comment ça se passe?
Et Jean-Pierre Elkabbach, entre-temps, est nommé patron.
Oui.
Et il me dit, Michel, il voulait que je fasse le 20h.
Ouais.
Il m'a dit, commence par l'Access Prime Time. T'as jamais fait une quotidienne. Fais-moi un Access Prime Time. Et on a créé Studio Gabriel, qui a duré 4 ou 5 ans.
Oui, alors moi j'ai 94-97 sur ma petite fiche, donc effectivement ça fait 4 ans.
Et là j'ai découvert une quotidienne.
Oui.
Et c'était assez extraordinaire, mais c'était très éprouvant, mais c'était un carrefour important, tu le sais comme moi, le carrefour 18h30-21h30.
Oui.
Privé ou pas privé, c'est un carrefour très important.
Bien sûr.
C'est là où ça se décide, quoi.
On va reparler de la télé d'aujourd'hui, hein, ce que tu en penses. Pour l'heure, on continue assez succinctement.
Studio Gabriel, c'est une grande rencontre avec Laurent Gérard et Virginie Lemoine.
Là, quand tu as amené cette touche de fantaisie, de comique, d'autodérision, là, ça a apporté quand même un souffle nouveau, quand même.
C'est là où je commençais à me détendre.
Bien sûr.
Et puis, il y avait Benjamin Casseldi. Et puis, il y avait beaucoup de gens qui sont venus. Et c'est vrai qu'avec Laurent Gérard, c'est les premiers avec Virginie qui détournaient les images.
Oui, et puis il y avait de l'autodérision sur toi-même. Sur
toi, tout le temps.
Mais tout le temps. Mais au début, il y en a qui étaient très premier degré. Mais toi, tu as eu ce réflexe de te moquer de toi-même.
J'avais dans la vie, j'étais comme ça.
Oui.
Et on me disait, pourquoi t'es pas comme ça à l'antenne? Donc j'ai commencé, en fréquentant tous les humoristes, je me suis détendu. Et ce sont eux qui m'ont donné envie d'aller sur scène un jour.
Ça, c'est une histoire de fou. Et après, tu as été, bien sûr, copié. Et même, beaucoup, beaucoup d'humoristes sont venus. Et ça a mis un petit peu d'air frais dans tout cela. Il y a Vivement Dimanche qui arrive. Là, c'est dans les années 98. Et ça dure quand même un très long moment.
26 ans déjà.
Et ce jingle, et ce générique-là.
Ouais. C'est Frédéric Chateau.
Oui.
Qui a fait générique. Et c'est lui qui a fait générique de Star 90.
Et là, on a ça dans la tête depuis des années années. Émission dominicale emblématique. À l'époque, c'était Jacques Martin quand même.
J'ai succédé à Jacques dans des conditions très douloureuses parce que Jacques a fait un AVC.
Ouais.
À l'Empire, Jacques, c'était monumental. Jacques, c'était une institution.
Mais cet AVC,
avec l'école des fans, c'était incontournable.
Avec Pino de la Touca, on s'en rappelle. Avec Bob Kibel.
Bob Kibel et. Et puis, il y avait aussi le petit rapporteur qui a suivi. C'est la même bande, tout ça.
Polaro. Alors, cet ABC, il vient à la suite d'une mauvaise nouvelle, quand même, par rapport à Jacques Martin, parce qu'on le fait tomber du camion également, non?
Oui, c'est-à-dire que le patron de l'époque lui dit, il faudrait peut-être, il lui sort ce qu'on m'avait sorti sur TF1. Former un jeune. Quand on dit former un jeune, ça sent le sapin.
Ouais.
Et donc, j'ai succédé. C'était très douloureux parce que je ne voulais pas accepter sans en parler à Jacques. Donc, je voulais absolument voir Jacques. Et puis, il était dans son lit. Il était très, sur le plan neurologique, très touché.
Ouais.
J'ai jamais pu le voir. Je lui ai écrit une lettre, etc. Et puis, finalement, c'est Jean-Claude Brialy, dans un premier temps, qui l'a remplacé pendant les vacances.
Mmh.
Et moi, j'ai remplacé Jean-Claude Brialy.
Mmh, absolument.
Ça fait 26 ans.
Mais
c'était dur parce que l'école des fans, fallait passer derrière. Hein.
Ah oui, ça je te confirme.
Il y avait des familles qui arrivaient avec M. Gabriel et qui me demandaient à quelle heure passe l'école des fans.
Ouais, ça c'est.
Ils pensaient que je remplaçais Jacques, mais dans la même formule.
C'est assez délicat quand même. Mais toi, tu as toujours eu cette envie et puis tu as toujours eu ce respect. On va parler évidemment avec Michel Drucker qui est notre invité ce soir dans On se tutoie sur Nostalgie un peu plus intensément et en profondeur. L'envie, tu l'as toujours eu et d'ailleurs, Johnny aussi. Et tu sais de quoi on parle. Sur Nostalgie, c'est le Michel Drucker.
Ça c'est une grande chanson, ça.
Énorme.
Qui résume notre métier. Toujours avoir envie.
Mais c'est clair, net et précis. On l'écoute et puis on en parle juste après.
L'obscurité, puis la lumière.
On se tutoie.
Et on profite enfin du week-end. Jusqu'à 20h.
Jean-Luc Reichmann sur Nostalgie.
Extraordinaire, comme dirait Michel
Drucker. Qu'on allume ma vie.
Ouais, c'est des moments très très forts. Tu étais dans le studio quand il a enregistré.
Oui, moi j'ai vécu des moments assez formidables avec ça. Mm-hmm. J'étais dans le studio avec Jean Ferrat lorsqu'il a enregistré Nul ne guérit de son enfance, La montagne, tout ça. J'adorais aller en studio comme j'adorais aller sur les plateaux de télévision et les plateaux de cinéma.
Mm-hmm.
Et c'est vrai quand Johnny enregistrant un disque, c'était incroyable, il faisait deux prises.
Il faisait deux prises, mais là,
Céline Dion, pareil.
Ce qui m'intéresse, c'est tu dis que c'est le résumé de notre profession qu'on me donne l'envie d'avoir envie.
Le jour où on n'a plus envie, on n'est pas bon.
Ouais.
Je crois.
Et puis ça se voit.
Oui, s'il dit, oh là, je me lève le matin, il faut que j'y aille.
Non. Oui. Et toi, t'as jamais eu ce sentiment une seule fois, après quand même toutes ces années? Si, combien d'années de carrière? Il y a quoi? Il y a 60 ans de carrière là?
61.
Ouais, 61 ans de carrière.
Y a et jamais... c'est les 50 années les plus difficiles, après ça va tout seul.
Les 50 premières. Là, tu te sens de mieux en mieux, quoi.
Mais là j'ai eu un petit coup de barre il y a quelques mois, j'ai un peu perdu l'envie, j'étais fatigué.
Oui.
Parce que je paye encore de temps en temps, c'est post-traumatique.
Ouais, c'est ce qui t'est arrivé il y a 3-4 ans.
Deux opérations très graves.
Oui.
Où là, j'aurais jamais dû revenir aussitôt, mais je voulais absolument, parce que sinon, je me disais que j'en reviendrais jamais.
Oui, c'est comme le vélo, tu remonterais pas.
Voilà, exactement. Et puis, je suis allé, ça a été très, très dur physiquement. Ça l'est encore de temps en temps, je fais très attention. Mais,
tu fais quoi au quotidien, là, pour faire attention?
Je fais, quand ça va bien, je fais une heure de sport par jour.
D'accord.
Et je suis chez moi.
D'accord.
C'est-à-dire que j'ai découvert, avec le confinement en plus, j'ai découvert la maison.
Et ça, c'est quand même fantastique. Grâce au confinement, tu as découvert ton chez-toi.
J'ai découvert mon appartement que j'ai visité, que j'ai trouvé très bien. Et ma femme m'a dit, je te signale qu'on est là depuis 40 ans.
Mais ça, c'est quand même extraordinaire.
Et donc, j'y suis tout le temps maintenant.
Ouais. Il y a eu des petites secousses dans ta vie. Il y en a une qui t'a particulièrement touché, bien évidemment. C'est celle de ton frère, qui en fait...
C'est le drame de ma vie.
Mais j'en suis persuadé, c'est-à-dire qu'il y a eu un élément... Il y a eu tout un côté de toi qui est parti. Je crois qu'il n'avait que 61 ans, c'est ce que j'ai compris.
Il n'avait même pas 62 ans, il avait créé M6, il avait un avenir formidable.
Oui.
Et on devait s'associer tous les deux.
Oui.
Il est mort le week-end de Pâques où j'allais lui faire signer les papiers. On s'associait tous les deux frères ensemble.
Ouais. Et là, on t'enlève deux bras.
C'était affreux. D'ailleurs, dans mon bureau, Monsieur Gabriel, il y a une énorme photo de lui. Et je pense à lui à chaque fois que je rentre en scène. Et je parle beaucoup de lui dans mon livre, d'ailleurs. Parce que lui m'a dit une chose très, très juste. Il m'a dit, faire des bonnes audiences, certes, mais sur la longueur, c'est l'image. L'image, c'est l'audience de demain. Il me disait toujours, ne sacrifie pas l'image.
C'est important ce que tu dis, parce que la télé d'aujourd'hui, tu en penses quoi? C'est-à-dire que si par exemple, voilà, on parle de ton frère, mais si toi, tu avais un conseil à donner au petit Michel Drucker qui commencerait aujourd'hui, la télé, l'avenir de la télé, c'est quoi toi pour toi?
Ben, le problème, c'est les écrans, c'est que ça va trop vite.
Oui.
Ça va très vite maintenant. La télé, ça tourne à la vitesse d'un clip, et moi, je suis resté sur le rythme d'un long métrage.
Voire même d'un scopitone.
Ça va trop vite.
Oui.
Très vite maintenant. TikTok, tic, tout ça, c'est quoi? C'est 10 secondes, 20 secondes.
Oui. Même pas.
Alors,
au bout de 2 secondes, ça y est, ça swap, ça.
Alors, cela dit.
Oui.
La puissance de ça. On avait fait un gag dans ton jardin. En Corse.
Oui, c'est vrai.
Où j'avais dit, je vous présente mon potager.
Oui, c'est le potager.
Et t'étais dans le jardin, j'ai dit, voilà mon potager.
Oui.
Et en imitant...
Johnny.
Qu'est-ce qu'on en a parlé?
Oui.
Qu'est-ce qu'on en a parlé?
Oui.
À chaque fois qu'on a fait de petites bêtises ensemble,
oui,
on en a parlé. Et c'est là où j'ai mesuré que c'était important. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de méchanceté, beaucoup de vacheries, beaucoup d'insultes.
Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gens? Parce que toi, tu es quand même sur le positif. On t'a fait tout type de coups fourrés dans ta vie, des coups de jarnac quelque part derrière le talon. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à tous ces gens qui sont là pour le clic, pour le buzz impérativement, pour aller rechercher de la reconnaissance alors qu'on les connaît même pas? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire?
Aller sur une chaîne qui prend encore son temps.
Oui.
C'est pour ça que je suis dans le service public.
Oui.
Si j'avais été dans le privé, après le pépin de santé très grave sur le plan cardiaque qui m'est arrivé, quand j'avais déjà pas loin de 80 ans, je ne serais jamais revenu. Moi, j'ai connu les deux. J'ai connu TF1, où tu es.
Oui.
Je suis resté 5 ans, où ça a été un très bon souvenir. C'est très important de connaître le privé.
Mmh.
Et puis, j'ai passé 55 ans dans le service public. si on peut essayer d'être une chaîne où les patrons vous laissent le temps de vous installer.
Oui.
Mais malheureusement, maintenant, le sondage... Un mauvais sondage, ça va. Deux mauvais sondages, ça casse.
Oui, c'est clair.
On se tutoie sur Nostalgie.
Avec Jean-Luc Reichmann. Tous les vendredis soirs, 19h-20h. Et à tout moment, en podcast, sur l'appli Nostalgie.